Pour le message ce matin, 1 Roi, chapitre 19. Le premier livre du Roi, chapitre 19. Roi, chapitre 19. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Le verset 5, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. » Le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y a eu un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et briser les rochers. L'Éternel n'était pas là dans le vent. Et après le vent, il fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne, et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils sont tués par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, bois, répands ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu vendras Hazael pour roi de Syrie. Tu vendras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi de l'Israël. Et tu vendras Élisée, fils de Shaphat d'Abel-Mehola, pour prophète à ta place. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Hazael, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche n'a point baissé. » Voilà, nous allons arrêter notre lecture jusqu'à ici. Il est dit que l'histoire est écrite par des vainqueurs. On ne cache tout, on ne raconte ce qu'on veut bien nous raconter. Mais une des choses les plus extraordinaires avec la Bible, qui est le plus grand et le plus fiable livre de l'histoire de l'humanité, c'est qu'elle est la parole de Dieu et qu'elle dit la vérité. Elle n'a pas peur de dire la vérité. Elle nous raconte aussi bien l'histoire de vaillants hommes qui ont fait des choses extraordinaires pour Dieu que nous admirons. Mais elle nous raconte aussi celle d'Abraham qui était un menteur, Jacob qui était un voleur, Moïse qui avait un tempérament de meurtrier, le roi David qui était un adultère. Chacun était de grands héros de la foi. Mais la Bible refuse de passer sous silence leurs défauts. La Bible dévoile leurs défauts, même s'ils sont grands. Dans la longue liste des hommes et des femmes de la Bible, nous trouvons ce matin Élie, l'homme de Dieu qui a fait des choses extraordinaires pour lui. Élie était un homme puissant de Dieu qui a été utilisé par le Seigneur d'une manière merveilleuse au cours de sa vie. Élie entre sur la scène de l'histoire de nulle part avec une déclaration audacieuse pour le roi Achab. Après ce moment, nous sommes sur le point de voir comment Dieu a utilisé ce prophète inconnu comme un homme puissant dans la main de Dieu. Nous avons vu ensemble il y a 15 jours dans le livre de 1 Roi chapitre 18 comment Élie par sa foi a fait venir le feu du ciel sur le mont du Carmel. Son courage devant le roi Achab et ses centaines de prophètes, ce prophète Élie de l'Ancien Testament est mentionné au moins 28 fois dans le Nouveau Testament. Jacques nous dit qu'il pria avec instance pour qu'il ne plût point, il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Cet homme a tenu la clé du ciel dans ses mains, si nous pouvons le dire ainsi. Quand nous lisons ces paroles qui parlent de ce grand prophète de Dieu, nous sommes en admiration. Nous sommes émerveillés comme ce peuple de Dieu qui était là sur le mont Carmel quand Élie pria à l'Éternel pour que le feu tombe du ciel et consume le sacrifice. Nous sommes émerveillés par le grand miracle de Dieu. De nos jours aussi, les gens demandent des miracles pour croire en Dieu. Nous savons que c'était le cas même pendant le temps de Jésus. Jésus disait, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Mais nous ne devrions pas oublier que cet homme de Dieu était quelqu'un comme vous et moi. Il fut un homme ordinaire qui s'est rendu utile pour la manifestation de la gloire de Dieu. Il fut un homme ordinaire utilisé par Dieu pour accomplir des choses extraordinaires. Regardez ce que Jacques nous dit par rapport à cet homme. Moi, je vais lire en Jacques 5, 17, seconde partie de ce verset que nous avons vu. Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme de la même nature que nous. Le texte que nous avons ce matin est en fait la continuation de le chapitre 18 du livre de 1 Roi 18. Pour ceux qui n'étaient pas présents le 27 octobre, nous avons vu qu'Achab vient de rencontrer Élie et l'accuse de troubler Israël, ne réalisant pas que l'homme de Dieu était l'un des meilleurs amis qu'Israël n'a jamais eu. Ne craignant pas pour sa vie, Élie reproche au roi d'avoir mélangé l'adoration de Jéhovah avec l'adoration de Baal et le met au défi de réunir ses prophètes idolâtres pour un concours sur le mont Carmel pour déterminer qui est le vrai Dieu. S'adressant aux représentants d'Israël, Élie les a accusés d'une hésitation entre deux opinions. Ils devraient choisir soit le Seigneur, soit Baal. Le concours commence. Deux taureaux devraient être tués et posés sur l'autel. Élie représenterait le Seigneur, tandis que les 450 prophètes d'Akab représenteraient Baal. Le Dieu qui a répondu par le feu serait reconnu comme le vrai Dieu. C'est ça l'histoire dans le chapitre 18. Et je vais lire quelques versets, puisqu'on peut vraiment être dans le contexte. Le prophète d'Akab invoque le nom de Baal, chapitre 18, le verset 26, invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant « Baal, réponds-nous ». Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Ils sautèrent devant l'autel qu'il avait fait. Verset 28. Et ils crièrent à haute voix. Ils se firent selon le coutume des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. 29. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Et on passe à verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, et le bois, la pierre et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et maintenant on vient dans le chapitre 19, le premier verset, les premiers deux versets, il nous dit, Akab rapporta à Jézabel tout ce que avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Nous lisons ici que Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Il ne raconte pas, si nous allons voir bien cet passage, il ne raconte pas ce que Dieu a fait. Il va aller raconter ce que Élie a fait. Il ne raconte pas à sa femme Jézabel, comment l'eau et le feu sont tombés du ciel, mais il raconte comment Élie avait tué par l'épée tous les prophètes de Baal, les prophètes de Jézabel. C'est quand même étonnant, n'est-ce pas? Ce roi d'Israël voulait par tous les moyens, vouloir plaire à sa femme. Akab, c'est le premier roi d'Israël à se marier avec une femme étrangère, une sidonienne. Nous comprenons pourquoi Dieu avait strictement interdit de ne pas se marier avec des étrangers. Souvent, nous entendons ce pourquoi sans même être conscients des complications que cela peut nous engendrer. Désobéir à la parole de Dieu ne peut pas nous aider à le glorifier. Ce sera toujours le contraire. En tout cas, ni les miracles et des prodiges faits par l'homme de Dieu, la grande manifestation de la gloire de Dieu, la terrible manifestation de la création, ni la bénédiction, la pluie qui tombait après 3 ans et demi, n'ont pu changer les cœurs d'Akab et Jézabel. C'est l'état de cœur charnel. Où sont partis ces peuples quand le peuple... Ces peuples qui ont crié, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Quand Akab dit à Jézabel concernant la défaite et la mort des prophètes de Baal sur le mont Carmel, elle jura qu'elle tuerait Élie en un jour. Elle a donné 24 heures. Puis le prophète dont la foi avait remporté une victoire si grande la veille, il a perdu courage. Il a couru pour sa vie de Jézabel de Jezreel, au sud de Beersheba, à environ 160 km à la limite du sud de Juda. Laissant son serviteur à Beersheba, Eli continua vers le sud en voyage d'une journée dans le désert. Puis il se reposa sous un gêné, découragé, vaincu et déprimé. C'est dans cet état que nous rencontrons Élie. Élie n'aurait jamais pensé qu'il serait dans cet état quand il était encore sur le sommet de Mont Carmel. Juste le jour avant, il était sur le Mont Carmel, l'homme le plus puissant devant le prophète de Baal, devant Achab. Mais aujourd'hui, il est sous un arbrisseau, sous un gêné, et découragé, abattu. Nous avons adoré le Seigneur sur le thème « Régénérer selon la miséricorde de Dieu ». Et je vous dis que nous continuerons à adorer en étudiant sa parole. Tout ce que nous faisons, c'est en adoration de notre Dieu. Tout ce que nous allons faire, tout ce que nous faisons dans cette matinée, c'est l'adoration. Dieu vient à lui avec un message d'espoir et encouragement. Mais en même temps, Dieu vient vers Élie avec un message de confrontation. Dans le verset 9, le Seigneur demanda à Élie, « Que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici, Élie ?» Élie était dans un endroit où il n'aurait pas dû être et le Seigneur avait l'intention de le ramener. Il y a des moments où nous nous trouvons tous dans un endroit comme Élie. Nous nous décourageons, nous sommes vaincus et nous pensons à jeter l'éponge. Comme on dit, avez-vous déjà été là? Bien sûr que si. Nous avons tous passé par cette étape. Ce passage a quelque chose à nous dire durant ces moments de la vie. Quand vous vous trouvez dans un endroit comme Élie, vous pouvez être assuré que Dieu viendra et vous demandera la même chose qu'il a demandé à Élie. Que fais-tu ici, Élie? Nous allons voir ensemble les circonstances qui ont amené Élie à l'endroit ou dans la situation où il se trouvait quand le Seigneur le trouva. Un endroit où il ne devrait pas être. Premièrement, nous voyons ici que Élie a eu peur pour sa vie. Il a eu trop peur. Cet homme qui était si courageux sur le mont de Carmel, on voit qu'il a peur pour sa vie par la menace d'une femme. Jézabel. Il était paralysé en voyant des choses. La parole nous dit qu'il était paralysé en voyant des choses. Regardons ensemble le verset 3. Élie voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Élie voyant cela, la menace de Jézabel, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. C'est toujours dangereux de regarder des choses qui sont autour de nous au lieu de regarder au Seigneur. Nous connaissons bien ces passages que je vais vous montrer. En Matthieu 14, versets 28 à 31, si vous pouvez noter, Pierre lui répondit, il parle à Jésus, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Ici, Pierre, il a véritablement marché sur l'eau pour aller vers Jésus. Regardez bien, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Donc, l'apôtre Pierre, il voulait essayer, il avait la foi et il a marché. Il marcha sur la mer. Mais quand il a vu le vent, Mais voyant que le vent était fort, il a eu peur. Mais toujours quand on regarde autour de nous, on a peur. Mais quand on tourne notre regard, on enlève notre regard du Seigneur, on a peur. On a beaucoup de choses dans ce monde qui peuvent nous faire peur. Et encore, nous allons voir en Exode 14, versets 9 à 14. Exode 14, versets 9 à 14. C'est les enfants d'Israël devant la mer Rouge. Et l'armée égyptienne, ils se pourchassent. Exode 14, verset 9. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hénroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait, regardez bien, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là que nous te disons en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert? Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Ne craignez rien. Mais le peuple eut une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Et Moïse, il continue, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Le peuple a vu Pharaon et son armée et la mer devant. Moïse a pu voir la délivrance de Dieu. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de regarder dans notre vie? Qu'est-ce que nous regardons? Pourquoi nous avons peur? Pourquoi nous avons peur? Un autre exemple, c'est David devant Goliath. 1 Samuel 17, 24 à 25, je vais lire. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Quand les autres voyaient le géant, David a pu voir la victoire de Dieu sur son ennemi. Et tout Israël a vu le géant. Mais David l'a pu voir avec les yeux de la foi, la victoire de Dieu sur son ennemi. Nous sommes souvent effrayés et voyons des faits de la vie. Les actualités de nos jours nous font peur. Ça suffit de regarder la télé pendant quelques temps et nous mettrons le gilet jaune pour être dans la rue. Rien qui va bien, tout va mal dans le pays. Et des meurtres, des choses atroces commises dans la société et parler en boucle 24 heures sur 24 pour nous effrayer, pour nous faire peur. Mais où est-ce que nous fixons nos regards? Cependant, Jésus avait la capacité de voir les deux par sa nature divine. Et je vais vous lire de Jean 1, 42. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Et Jésus a pu voir Simon, fils de Jonas, il dit que il a vu Simon, il dit que tu seras appelé Pierre. Il voyait déjà. Et en Hébreux 12, 2, ayant les regards sur Jésus, le chef de la chef et le consommateur de la foi qui ont vu de la joie qui lui était réservée à souffrir la croix, mépriser l'ignominie et s'est assise à la droite du trône de Dieu. Donc Jésus il a pu voir ce qui se passe autour de lui et aussi il a pu voir ce que ce sera dans l'avenir. En vue de ce que nous regardons dans la parole, nous pouvons nous poser cette question, que regardons-nous? Que regardons-nous? Deuxièmement, Élie voulait prendre le contrôle de sa vie. Pourquoi Élie se trouvait dans cette situation? Parce que Élie voulait prendre le contrôle de sa vie. Élie commence à chercher des mauvaises choses pour lui. Au début, il voulait sauver sa vie et il a fui Jézabel. Et maintenant, il voulait ôter sa vie. Regardez les versets 4. Après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez maintenant, l'Éternel, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Ces choses ne sont-elles pas contradictoires ?» À un moment donné, il fuit Jézabel et après une journée de marche, il s'assoit sous un arbrisseau, il demande la mort. Il dit que c'est assez, Éternel. Maintenant, prends mon âme. En effet, sa principale préoccupation maintenant était sa propre volonté et d'accomplir à sa manière. Bien souvent, nous, les enfants de Dieu, nous nous conduisons de la même manière. Notre problème est que nous plaçons notre volonté devant la volonté de Dieu. Il y a la volonté de Dieu, nous savons très bien, mais notre volonté se préoccupe la place la plus importante. Et je vais lire de Marc 8, 34 à 37. Jésus disait, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Et que sert-il un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Donc Élie, il voulait sauver sa vie, mais ici, dans un endroit aride, désert, il a dit qu'il voulait mourir. Mais si on devrait utiliser la phrase qu'on utilise aujourd'hui, il avait la tendance suicidaire. Il avait la tendance suicidaire. Qu'est-ce que cet homme de Dieu est en train de faire ici? N'est-il pas appelé pour servir et pour faire la volonté de Dieu? C'est le prophète de Dieu. C'est l'homme qui devrait encourager le peuple de Dieu. Mais ici, et dans l'obscurité, il est en train de demander la mort. Son murmure et ses lamentations ne sont certainement pas la gloire de Dieu. Oh, combien souvent nous oublions notre occasion et notre appel. Combien de fois nous sommes couchés dans notre navire, comme Jonas, en cherchant notre propre volonté. Ou parfois nous sommes réveillés de notre sommeil profond par des gens du monde qui nous disent « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. » Troisièmement, la parole d'Élie ne glorifie pas Dieu. La parole d'Élie ne glorifie pas Dieu. Quand nous n'allons pas bien dans notre vie spirituelle, il vaut mieux se taire. Mais combien de fois nous disons les bêtises quand nous n'allons pas bien intérieurement? Les gens, ils ne voient pas comment nous vivons notre vie spirituelle. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Quand je dis ainsi, la vie spirituelle, il faut faire attention. Nous n'avons pas deux vies. Une spirituelle et une autre qui est charnelle. Si nous sommes sauvés et lavés par le sang de Jésus, et si nous sommes régénérés, comme nous avons vu ce matin, par le Saint-Esprit, nous vivons la vie spirituelle, c'est-à-dire selon la volonté de Dieu. Nous n'avons pas le choix, nous n'avons pas un autre choix à faire. Nous devrions faire la volonté de Dieu. Car la bouche parle de l'abondance du cœur. Nous voyons que Élie souffre dans son état. Il déprime. Il dit, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Je pense que Élie, il devrait parler avec l'Ecclésiaste, Salomon, qui a dit que rien n'est nouveau. Tout est déjà passé ainsi. Comme Élie est un homme de la même nature que nous, nous pouvons comprendre ces mots de désespoir. Quand il est complètement abattu, après une marche d'une journée entière de 160 kilomètres, avec cette menace de la mort de Jézabel qui sonne encore dans ses oreilles, mais nous savons que nos paroles dans certaines situations ne glorifient pas du tout le Seigneur. L'apôtre Paul dit dans son épître aux Romains, Romains 14, je vais lire 7 à 8, « En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. » Et puis il dit dans l'épître aux Philippiens, « Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Et à partir du verset 5 de ce chapitre jusqu'à le verset 8, nous voyons la compassion de Dieu. Élie, il est en train de dire n'importe quoi, il est en train de lamenter, certainement il ne glorifie pas Dieu dans son état, mais nous voyons la compassion de Dieu dans ce passage, verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Je pense que quand l'homme ne fait pas la volonté de Dieu, sa conscience elle n'est pas tranquille. Et ce qu'ils font souvent, ils dorment. Vous vous souvenez de Jonas? Ça allait sur le dernier étage du bateau, il a endormi. Il avait un sommeil profond. Et il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Mais ici, nous voyons la présence du Seigneur. Il vient vers lui, il le toucha, il touche très doucement. Il dit, « Lève-toi et mange. » Lève-toi, mange. Il regarda, verset 6, il y avait à son chevet un gâteau cuit sous des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Et déjà le déjeuner était déjà préparé. Il avait le gâteau et la cruche d'eau. Et le Seigneur, il le touche, il le réveille. Lève-toi et mange. Et il se lève, il mange, il ne pose pas de questions, il ne demande pas d'où vient ce gâteau et tout cela, qui a fait le gâteau, mais il mange mécaniquement et se recoucha. Le verset 17, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois et le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Donc il a encore des chemins à faire. Il dit, le chemin est trop long pour toi, donc mange, lève-toi et mange. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. La parole, dans le chapitre 18, nous avons vu qu'il y avait des 450 prophètes de Baal. Et encore, les 400 prophètes de Baal, ils mangèrent à la table du roi Achab, la table de Jézabel. Et ici, le prophète Élie, il est nourri par le Dieu éternel, le Dieu souverain. Et avec cette force, la parole nous dit, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Horeb, c'est la même montagne où Dieu se rencontre avec Moïse. Notre Père Céleste est un tendre Père, beaucoup plus que nous pouvons l'imaginer. Sa tendresse est remarquable. Il le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il fait une seconde fois et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Nous sommes faits de même matière comme ou Élie, il est fait de la même matière comme nous sommes. Car il sait, Dieu sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Est-ce que nous sommes conscients de la tendresse de Dieu? Permettez-moi de vous dire que nous, les pères, nous ne sommes pas toujours tendres avec nos enfants. Martin Luther, ils disent que Martin Luther, il n'a pas pu prier la prière du Seigneur. En Matthieu, parce qu'il n'avait pas une bonne image du Père à cause de son Père qui était trop strict avec lui. Notre image de notre Dieu, notre Père Céleste, est déjà, elle ne peut pas être correcte, parce que nous voyons comment nous sommes traités par nos Pères terrestres. Mais Dieu, il est au-delà de toute cette imagination. Dieu, il est c'est un tendre Père. Oh, combien notre Père Céleste est un Dieu miséricordieux. Le Seigneur n'a pas jugé Élie, ni il était réprimandé. Élie, il était réprimandé par Dieu. C'est deux mots que nous utilisons pour décrire le caractère de Dieu, grâce et miséricorde. Et la dernière cantique que nous avons chanté dans Chanter à l'Éternel, 54, on peut prendre ces mots. Et pour comprendre quel est le mot pour la grâce, où est-ce qu'on peut trouver la grâce, où on peut trouver la miséricorde dans ce cantique. C'est très lié, c'est très mélangé. Même si ces deux mots sont très souvent utilisés, ce serait profitable pour nous de comprendre le sens de ces deux mots lorsque nous étudions ce passage merveilleux. Quand Dieu nous donne les bénédictions imméritées, nous comprenons que cela signifie la grâce de Dieu. Quand Dieu nous donne les bénédictions imméritées, nous comprenons que cela signifie la grâce de Dieu. D'autre part, quand le Seigneur ne nous accorde pas les choses dont nous méritons de recevoir, par exemple le châtiment, c'est la miséricorde de Dieu. Le Seigneur n'a jamais quitté Élie, même lorsque Élie ne marchait pas selon sa volonté, selon la volonté de Dieu. Parfois, les enfants de Dieu, ils peuvent s'éloigner, ils peuvent quitter le Père pour aller très loin. Souvenez dans la parabole de fils prodigue, le fils, il a quitté le Père, il est parti très loin dans la vie. Mais le Père, il n'a jamais quitté le fils. Il regardait tous les jours le chemin. Si le fils il revient. Donc le cœur de père était, il n'a jamais quitté le fils, même si le fils a quitté le père pour aller très loin dans la vie. Le Seigneur prend soin de lui avec le pain et de l'eau. Le Seigneur aurait pu radier Élie de son plan et choisir un autre. Élie n'était pas indispensable. Élie a quitté le plan de Dieu. Dieu n'a jamais demandé à Élie de quitter Israël parce qu'il avait des choses à faire encore. Dieu n'abandonne pas son peuple. Donc Élie était l'homme pour accomplir la volonté de Dieu. Mais Élie a jeté l'éponge, il a quitté Israël pour disparaître très loin. Le Seigneur aurait pu radier Élie de son plan et choisir un autre. Il ne l'a pas fait. Et combien de fois c'est vrai avec nous? Et combien de fois nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu? Dieu peut prendre un autre pour l'utiliser. Mais combien le Seigneur il est patient envers nous? Voyez la grâce et la miséricorde de Dieu. Dieu a confronté ses actions. Dieu n'a pas appelé Élie à vivre dans une grotte, mais à se lever pour le Seigneur. Mais parfois, les enfants de Dieu demandent ses enfants de vivre pour lui. Mais les enfants de Dieu, parfois, ils préfèrent être cachés sous un boisseau. Ils voudraient être cachés. Mais leur fonction, c'est donner la lumière pour être le témoin pour leur Dieu sauveur. Dieu ne vous a pas sauvé pour que vous soyez découragés et que vous vous perdiez sur le chemin. Mais pourtant, cet homme, il a fait des choses extraordinaires pour Dieu. Mais souvent, après la victoire, il y a un moment où on est découragé. Ça, la vie d'un chrétien, la vie spirituelle, c'est jamais comme une plaine. Il y a la montagne, après il y a des vallées, et après il y a la montagne, il y a des vallées. Mais ce que nous devrions savoir, que le Seigneur nous accompagne. Il ne quitte jamais. Dieu a confronté son attitude. Élie voulait voir le spectaculaire. Il a eu des choses spectaculaires, comment le feu est tombé du ciel, comment la pluie est tombée. Dieu devait lui apprendre à regarder les petites choses. Si nous regardons ce passage, il dit que voilà, je pense que c'est le verset 11. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel, et voici l'Éternel passa. » Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Donc, il y a des choses spectaculaires qui sont passées dans sur la montagne. Et la parole nous dit que l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Le verset 13, quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit, se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Une voix, il entend une voix. Voilà, dans le murmure doux et léger, il entend la voix. « Que fais-tu ici, Élie ?» Et déjà, quand le Seigneur il demande à Élie de se tenir dans la montagne, et Élie il se cache dans une caverne, il se cache dans une grotte, et il désobéit Dieu. Mais le Seigneur, il montre son miséricorde envers lui, et il se manifeste pour lui demander, « Que fais-tu ici, Élie ?» Et dans le verset 14, il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils sont renversés tes autels, ils sont tués par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Ici, Élie, il pense qu'il est tout seul en Israël et personne d'autre. Ce qu'il est en train de se plaindre. Il dit que tout le monde a abandonné. Tout le monde marche dans la voie d'iniquité. Et personne t'écoute. Et personne ne croit à ta parole. Et moi seul, qui reste, et on me cherche à ôter ma vie. Et c'est la supposition d'Élie. Mais on sait que dans la parole, la parole nous dit plus tard que ce n'est pas vrai. Donc, parfois, moi je pense que la cause de la dépression, si on passe par le moment difficile, on pense que rien qui va normalement dans notre vie, et parce qu'on commence à pitoyer à nous-mêmes, à se pitoyer de nous-mêmes. On pense que je suis malheureux, je suis seul, je travaille seul dans le ministère et personne ne peut voir mes problèmes, personne ne m'écoute. Et ça, c'était le problème d'Élie. Élie, il pense à lui-même, il pense que lui était seul et le Seigneur, il va confronter à cette supposition d'Élie. Élie a supposé qu'il fut abandonné. Il sent abandonné. Ce n'est pas vrai. Le Seigneur, il n'a jamais abandonné Élie. Le silence du Seigneur, ce n'est pas le signe de l'abondance. Pas parce que le Seigneur, il parle, il manifeste. Ça ne veut pas dire que le Seigneur, il nous abandonne. Comment on peut comprendre le silence du Seigneur comme un abandon? Et Élie, il a supposé qu'il fut abandonné. Dieu lui rappelait qu'il y avait encore 7000 hommes en Israël. Il y avait encore 7000 prophètes en Israël qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Achab, devant Jézabel. Donc, Élie, il a pensé qu'il était tout seul. Il n'y avait personne d'autre. Et tout le monde était détruit. Tout le monde s'est abandonné à Dieu. Mais Dieu dit que non, ce que tu penses, ce n'est pas vrai. Mais la vérité est qu'il y a encore 7000 hommes en Israël. Et si nous lisons le verset 15 à 17, le verset 15, l'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu vendras Azaël pour roi, de Syrie. Tu vendras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu vendras Élisée, fils de Shaphat, d'Abdelmehola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Azaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche n'a point la baisée. Donc, Élie, il supposait que tout était fini. Élie pensait que sa vie et son ministère étaient terminés. Et il était prêt à mourir. Vous rencontrez, est-ce que nous comprenons cette situation d'Élie? Il pense que tout était fini. Et selon lui, c'est supposition. Trop souvent, nos hypothèses ne tiennent pas compte de la souveraineté de Dieu. On peut penser beaucoup de choses, mais nous oublions que Dieu est souverain. Il sera vainqueur. Dieu sera vainqueur. Et il pensait que parce qu'il était fini, Dieu doit être aussi. Il avait tort. Et quand Dieu demande, tu vendras Azaël pour le roi de Syrie, et puis Jéhu en Israël, et puis Élisée. Nous pourrons voir dans le chapitre 20 que comment ça se passe. Mais vaincre, c'est nommer, c'est ça le sens. Le roi de Syrie, ce sera Azaël. Et après, on voit Néhu. Néhu, hein? Voilà. Néhu qui va tuer la reine Jézabel. Et Élisée, Dieu l'a déjà préparé pour continuer son œuvre en Israël. Élisée, il était déjà préparé par Dieu pour continuer l'œuvre. Mais Élie, il ne voyait pas tout cela. Élie, il ne voyait pas tout cela. Il n'entendait pas la parole de Dieu. Donc, il a dit qu'il a décidé lui-même de quitter. Mais Dieu, il travaille dans nos demains. Nous, nous ne pouvons voir que notre aujourd'hui. Nous ne voyons l'instant même. Mais Dieu, il est déjà dans nos demains. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il a plus de soucis pour son peuple que nous pourrons avoir pour le peuple de Dieu, pour son église. Et donc, ce beau passage, il nous a dit comment la miséricorde de Dieu a touché Élie pour le rétablir. Et Élie qui demande la mort, il verra par la mort. Il sera enlevé vivant. Il demande la mort, mais le Seigneur, il avait un autre plan pour lui. Il enlève Élie. En Isaïe 42, 3, nous lisons, « Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. » Chez les hommes, dans la société où nous vivons, c'est le plus fort qui gagne. Le plus fort, le plus puissant qui devrait vivre. Le plus faible devrait être éliminé. Mais pour le Seigneur, il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point les mèches qui brûlent encore. Mais quel Dieu merveilleux que nous avons. Et David, il avait bien compris la miséricorde de Dieu. Et nous connaissons ce passage après la plaie en Israël, de 2 Samuel 24, 14, « Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Et Jérémie, je vais finir avec cela, dans son livre de Lamentations, il dit, Lamentations de Jérémie 3, 18 à 26. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et ma misère, à l'absinthe absente et au poison, quand mon âme se souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Mais perdons notre patience, dans notre travail pour le Seigneur. Dieu nous demande de faire quelque chose. Avons-nous la patience pour attendre ses commandements, ce qu'il nous demande de faire, est-ce que nous avons la patience pour attendre, pour faire ce qu'il peut nous demander de faire, ou perdons notre patience parce que nous n'entendons pas la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous qui vivons dans le temps du Nouveau Testament, nous avons plus de lumière dans ces choses. Nous ne sommes pas plus grands que Élie. Mais nous avons la grâce et la miséricorde de Dieu qui nous accompagne tous les jours. Et son esprit qui vit en nous, qui nous dit, qui nous encourage que nous devrions continuer avec la parole de Dieu. Prions.